Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Noël et en ce jour très particulier où nous allons commémorer les 50 ans de la mort du général de Gaulle, je tenais à rassurer d'emblée nos auditeurs dont historiquement vôtre, les Français parlent aux Français. Enfin presque, puisque je suis suisse et que mon co-animateur est un luxembourgeois chevalier de l'ordre britannique vivant une partie de l'année sur une île grecque. Bonjour Stéphane Bern.
Oui, bonjour Mathieu. Enfin, je suis français, vous aussi peut-être.
Mais oui, je vous taquine, je fais que grandir à Genève. Si j'étais vraiment suisse, vous pensez bien que je ne serais pas venu payer mes impôts en France. Bref, il y a 50 ans, le général de Gaulle nous quittait. Alors évidemment, il y avait le de Gaulle rieur, le de Gaulle potache qu'aime à raconter Stéphane hors antenne.
Et vous connaissez, il est avec Malraux à la Comédie Française et ils vont aux toilettes au pissotière à l'entracte. Et Malraux sait pas quoi dire dans ces moments-là. Il dit « Belle pièce, mon général !» Et De Gaulle lui dit « Regardez devant vous, Malraux !»
Alors oui, certes, De Gaulle avait de l'humour, mais il avait surtout un talent d'orateur inouï, Stéphane.
Oui, c'est pourquoi, Mathieu, nous avons décidé de rendre hommage aujourd'hui aux plus grands orateurs de l'histoire. Le général De Gaulle, mais aussi Mirabeau. Et parmi les contemporains, vous avez choisi qui, vous ?
Fabrice Lucchini. Vous en connaissez d'autres ? Vous, au niveau des deux que j'ai cités, j'allais pas faire Jean Castex ?
Je sais pas.
Et avec... Il s'engage pas, hein ? Ah, ça vous gêne, ça, hein ?
Oui, il parle bien, Jean Castex. Et avec nous, Mathieu, ils sont en ordre de marche.
À peu près.
Elle est toujours première, elle nous entraîne aujourd'hui dans l'intimité du général Clémentine Portier-Kaldenbach.
Oui, oui, messieurs, mais voyez-vous, c'est compliqué d'évoquer l'intimité d'un tel personnage parce qu'il était d'une grande pudeur et d'une parfaite discrétion. Il n'était pas homme assez penché à se livrer en public à des effusions, mais je vais quand même tenter de vous parler ce qui me semble une part d'intimité profonde et méconnue du général de Gaulle.
Il y aura du scoop ou pas ?
Non, il n'y aura pas du scoop.
Oh, si, 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 bah si, vous le vendez.
Non, pas du tout. Pas du
est-ce
tout.
Qu'ils aient
pas
des virés en scooter dans Paris ou dans...
Il n'y a pas de ragot sur le général de Gaulle, non.
Olivier Pouls, vous aussi, vous avez respecté la thématique du jour.
Oui, alors c'est une demande de Benjamin Delson, notre rédacteur en chef, qui me dit « J'ai plus trop de champagne pour Noël, tu pourrais pas nous faire un truc ?» Il me semble que le général, il aimait bien, effectivement, le général adorait le champagne. Il avait une maison de prédilection qui lui rend hommage avec une cuvée. C'est un point commun en plus qu'il pourrait avoir avec Winston Churchill, qui lui aussi a une cuvée de champagne à son nom. Et je vous raconterai l'histoire de cette cuvée de champagne.
Mais aussi David Castello-Lopez.
Tout à fait. Moi aussi, je colle au thème de l'émission
Est-ce
cette fois-ci.
Est-ce que vous collez vraiment au thème de l'émission ?
Un petit peu. C'est les origines de l'enregistrement sonore. Ah. C'est très important.
Sans enregistrement sonore, pas de grands orateurs.
Il y a un micro de la BBC qui est exposé, un micro d'époque qui est exposé au musée des Invalides.
Ah, c'était la suite de sa chronique. Merci.
C'est vrai ?
Non. Et enfin, aujourd'hui, même le quiz sera dédié au général. J'espère que vous êtes béton sur sa bio. Et surtout, vous connaissez autre chose, Stéphane, que ses saillies dans les pissotières. On le vérifiera dans Burn to be Alive vers 5h-10. Mais pour l'heure, évoquons donc le destin en tout point hors norme d'un grand homme qui fut aussi un grand orateur, Charles de Gaulle.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a 50 ans, jour pour jour, le 9 novembre 1970, Charles de Gaulle s'éteignait paisiblement dans sa maison de campagne de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises. Voilà donc à demi-siècle que le grand Charles, l'homme du 18 juin, nous a quittés. Un homme qui a marqué l'histoire de France plus que quiconque. Un général aux multiples casquettes ou képis, devrais-je dire. Militaire, résistant, homme d'État ou encore écrivain. S'il a laissé une empreinte profonde sur notre pays, marqué ainsi le destin de la France pendant et après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la Ve République, c'est grâce à ses multiples talents, sa vision politique, l'originalité exubérante de son personnage, il faut le dire, mais aussi, et peut-être même avant tout, pour ses talents d'orateur. Le général de Gaulle n'avait pas son pareil pour captiver son auditoire. Ses discours savaient faire vibrer toutes celles et ceux qui les écoutaient. Les unifier, faire naître en eux un sentiment d'appartenance, de devoir, d'héroïsme même. De tous ceux qu'il a prononcés au cours de sa carrière, deux sont surtout restés à jamais gravés dans les mémoires, égalant au panthéon des meilleures allocutions publiques de l'histoire des discours comme le célèbre « Ich bin ein Berliner » de John Fitzgerald Kennedy, l'iconique « I have a dream » de Martin Luther King ou plus récemment le « Yes, we can » de Barack Obama. Ces discours mythiques de Gaulle, ce sont évidemment l'appel du 18 juin 40, un appel à la résistance entrer dans la mythologie. Et puis, son fameux « je vous ai compris » modèle d'éloquence prononcé à Alger en 1958 pendant la guerre d'Algérie. On peut en citer d'autres, bien sûr, qui ont accompagné d'autres grands événements politiques de la France. Son discours radiodiffusé du 8 mai 1945, celui de la victoire contre les Allemands, et se prononcer plus tard en tant que président de la Ve République, commençant par le fameux « Française, Français », comme le 18 octobre 1962, pour proposer aux Français un référendum sur l'élection du président au suffrage universel. Ou après les événements de mai 68, pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais attardons-nous sur ceux qui sont entrés dans la légende, l'appel du 18 juin et le « je vous ai compris » donc. Parce que ce sont les plus célèbres, mais aussi parce qu'ils nous offrent l'opportunité d'apprécier les talents d'orateur de De Gaulle, sous deux angles différents. L'un radiophonique, l'autre télévisé, devant la foule. Retour d'abord en juin 40. En ce mois de printemps, la situation en France est critique. C'est la débâcle militaire. L'Allemagne envahit la France. Le 14 juin, les troupes d'Hitler défilent dans les rues de Paris. Le gouvernement français, qui a fui la capitale, tente un accord de la dernière chance avec la Grande-Bretagne. Le 16 juin, le général de Gaulle, alors tout juste nommé au poste de sous-secrétaire à la Défense nationale et à la guerre, est envoyé à Londres négocier des renforts militaires. Mais alors que Sir Winston Churchill vient d'accepter l'idée d'une union franco-britannique, le gouvernement français change de main. Le même jour, le maréchal Pétain est nommé à la tête du Conseil. Il veut livrer par l'armistice la France aux Allemands. Charles de Gaulle, opposé à cette idée, décide de repartir pour Londres. De là, il veut poursuivre les combats. Et cette bataille se jouera d'abord sur les ondes de la BBC.
Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français des armées de terre, de mer et de l'air. J'invite les ingénieurs et les ouvriers français spécialistes de l'armement qui se trouvent en territoire britannique ou qui pourraient y parvenir à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance.
Ce que nous venons d'entendre, ce n'est pas l'appel du 18 juin, parce qu'il n'a pas été enregistré. C'est celui qui a été diffusé 4 jours plus tard. De Gaulle a réitéré plusieurs fois son appel entre le 18 juin et le 2 juillet. Toutefois, l'extrait que l'on vient d'entendre est assez similaire dans le fond et dans la forme au texte de l'appel initial du 18 juin.
Si je peux me permettre, Stéphane, je trouve que le rythme est très lent dans ce discours.
En effet, Mathieu, vous avez raison. C'est l'une des marques de fabrique du général de Gaulle dans ses discours. Il prend son temps. Il n'a pas peur de marquer des pauses, de laisser au public le temps d'assimiler ses paroles. Si vous l'avez remarqué, ce n'est pas par hasard. Quand on travaille à la radio, on sait l'importance du rythme. D'ailleurs, cet aspect radiophonique est très important ici. Avec ce discours, nous entrons dans un nouvel âge. Un âge où l'orateur ne s'adresse plus à une foule, mais à des millions de personnes et où il est invisible. C'est donc par le seul son de sa voix, une voix vibrante et insoumise, que de Gaulle a réussi l'exploit de rallier toute une génération de résistants. Une prouesse quand on y pense, que l'on doit aussi à l'utilisation de termes forts, honneur, devoir, asservissement, flamme de la résistance. Le retentissement sur le long terme fut énorme. On dit souvent que l'appel du 18 juin a été peu entendu en France. Peut-être est-ce vrai quand on parle du direct, mais il a en tout cas été largement repris dans les quotidiens régionaux des zones non occupées, à travers des tracts. C'est le top départ symbolique d'une propagande qui va s'étaler sur plusieurs mois et dont les répercussions seront gigantesques. Car c'est cette voix, celle que De Gaulle porte au nom des Français puis des forces françaises libres, qui va s'imposer auprès des alliés. Un symbole d'espoir à un moment où la guerre paraissait perdue d'avance et dont le dénouement ultime sera la victoire contre les nazis.
D'où sa phrase prophétique du 18 juin, la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre.
Pour l'immense majorité des Français, cette phrase que vous citez, Mathieu, « La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre », concentre à elle seule l'essentiel du message que le général de Gaulle veut faire passer sur les antennes de la BBC en juin 40. Pourtant, vous aurez beau chercher, vous ne l'entendrez jamais la prononcer, ne la trouverez jamais dans ses discours sur les ondes. Elle est tirée d'un texte plus tardif. Un texte écrit que le général fait placarder dans les rues de Londres début août 40 et qui sera énormément repris durant toute la guerre. Faisons maintenant un saut de 18 ans dans le futur. Le 4 juin 1958, la France est embourbée depuis 54 dans ce qu'elle qualifie encore de trouble plutôt que de guerre d'Algérie. Le Front de Libération Nationale, le FLN, a déclenché contre la France une insurrection armée qui sème la panique parmi les colons. La 4e République chancelle. De Gaulle, qui avait disparu de la scène politique depuis 46 du fait de son opposition au régime, fait un retour en force. Le 1er juin, il est investi président du Conseil. Le 4, conscient de ce qui se joue en Algérie, il fait le déplacement à Alger pour y prononcer un discours entré dans l'histoire.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
De tous les discours de De Gaulle, c'est celui dont la phrase d'ouverture est la plus forte. Je vous ai compris. D'ailleurs, on l'a entendu dans l'extrait, elle déclenche tout de suite une ovation. Pourtant, cet exorde ne dit rien de bien clair. Elle a d'ailleurs été vivement critiquée par son ambiguïté. Qui a-t-il compris? Les Français d'Algérie ou les Algériens? Car si au départ les pieds noirs sont persuadés que c'est à eux qu'il s'adresse, qu'il entend maintenir la souveraineté française en Algérie, la suite va prouver le contraire. En septembre 59, désormais président de la République, De Gaulle proclame le droit des Algériens à l'autodétermination. Quelques mois plus tard, il exprime même clairement sa préférence pour une Algérie algérienne, une trahison pour les Français d'Algérie. C'est toute la prouesse de ce discours finalement, jouer l'ambiguïté pour rallier et ne pas se tuer politiquement. Surtout que dans ses mémoires d'espoir, le général explique avoir toujours su et décidé qu'il faudrait donner à l'Algérie son indépendance. Ce que ce discours parvient à faire, c'est à affirmer avec beaucoup de diplomatie l'autorité de Paris sur la question de l'autonomie de l'Algérie et surtout l'autorité de De Gaulle lui-même. Nous avons affaire ici à un discours proclamé devant une foule immense et retransmis sur des écrans. À la fin des années 50, la télévision commence à se démocratiser en France. De Gaulle le sait et soigne aussi son image lors du discours. C'est donc pas un hasard s'il portait, lors de cette allocution, son costume de général. Tout l'art de ce discours réside dans l'exploitation de sa position de héros. C'est pourtant le début d'une ère nouvelle pour lui. De héros de la guerre, il devient chef, naturellement controversé, de la France. Mais tout ça, c'est une autre histoire.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour parler du général de Gaulle, à qui nous consacrons une grande partie de notre émission aujourd'hui à l'occasion du 50e anniversaire de sa disparition, nous accueillons nos deux invités qui vont nous accompagner jusqu'à 17h, le réalisateur et scénariste Jacques Santamaria et le journaliste et ancien directeur général de France Télévisions, Patrice Duhamel. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, vous êtes les auteurs de Gaulle, l'éclat et le secret, une mini-série événement en 6 épisodes. 3 épisodes ont été diffusés lundi dernier, les 3 autres le seront ce soir sur France 2. De Gaulle, grand orateur, un homme du verbe. J'ai évoqué dans mon récit ses qualités, un rythme lent, des termes forts, un phrasé particulier. Est-ce qu'au fond c'est ça sa marque de fabrique?
Oui Stéphane, parce que De Gaulle... Il s'est imposé comment? Il s'est imposé par le verbe, par la voix. En 1940, qui connaissait le général de Gaulle? Personne. Personne ne savait comment il était fait. Et pendant 4 ans, il y a quand même des tas de gens qui ont entendu, qui ont écouté cette voix, sans pouvoir mettre un visage dessus, et quelques tracts clandestins avec son portrait. Mais
c'est par sa voix qu'on apprend à le connaître.
C'est sa voix.
Patrice Duhamel, vous aviez quelque chose à rajouter sur le charisme, sur le phrasé du général?
Oui, parce que ce qui est frappant chez lui, par rapport à tous les orateurs ou responsables politiques de l'époque, et même par rapport à ceux d'aujourd'hui, c'est qu'il parle à peu près de la même manière, et pour reprendre ce que disait Stéphane, qui est très juste, sur le rythme et le phrasé de ses interventions, il est le même à la radio et à la télévision. Et il aime beaucoup la radio. Et par exemple, 28 ans après juin 40, le 30 mai 68, le lendemain de sa disparition à Baden-Baden, il choisit la radio pour s'adresser aux Français à 3h30 de l'après-midi. Vous imaginez aujourd'hui, le président de la République, il a quelque chose d'important à dire, il choisit il pas de faire de la radio au milieu de l'après-midi.
Mais il y a la voix, mais il y a aussi l'écrit, la plume. On peut rappeler que le général de Gaulle est un homme de plume dès son enfance, et d'ailleurs pendant très longtemps, il a hésité. D'abord, il a vécu de ses droits d'auteur, et il a hésité entre l'écriture et la politique.
Oui, il avait une vocation, mais il en avait même deux. Deux vocations qui se contredisaient un petit peu. C'était les armes ou c'était les lettres? Il a fini par choisir. Mais il a écrit
vers l'armée de métier.
Il a écrit vers l'armée de métier. Mais avant cela, même vers ses 15 ans, il a écrit des petits textes pour le théâtre.
Ah oui, il a pas écrit qu'autour du militaire.
Non. Mais sur le militaire, il a quand même écrit alors qu'il avait une quinzaine d'années qu'il se voyait très bien en général de Gaulle sauvant la France.
Ah, c'est quand même incroyable.
Bah oui, comme visionnaire, difficile de faire mieux.
Et franchement, les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir, je dis ça pour les plus jeunes des auditeurs ou ceux plus âgés qui ne l'auraient pas lu, c'est vraiment c'est pas ce que je dis n'est pas une analyse politique.
C'est le style.
Le style est tout à fait extraordinaire.
C'était un écrivain.
C'est vraiment, il faut relire les mémoires de guerre et les mémoires d'espoir.
Une question qui se pose, est-ce qu'il écrivait seul ses discours, le général de Gaulle?
Oui.
Il n'y avait pas de plume derrière lui, il n'y avait pas de...
Non, il y avait non seulement il écrivait ses discours et il écrivait ses conférences de presse, mais il les apprenait par cœur.
Il n'avait pas de notes?
Non, il y avait un petit dossier devant lui. Je vous défie de trouver un moment où vous voyez le général en train de consulter le dossier ou de baisser le regard sur ses notes.
Alors dans la légende de Gaulle ou le mystère de Gaulle, il y a une anecdote qui n'a jamais été confirmée mais qui semble assez plausible. C'est en 1900, donc il a 10 ans à ce moment-là, et son père à Lille l'aurait emmené écouter un discours de Jaurès qui a fait un grand discours. Dieu sait que de Gaulle n'était pas d'accord politiquement avec ce qu'il disait Jaurès. Mais il avait retenu de ce discours de Jaurès le fait qu'il parlait sans notes. Et il aurait dit à partir de là plusieurs fois à ses frères et sœurs, à ses parents, si un jour je fais des discours, je ferai comme Jaurès, je les ferai sans notes. Et je pense qu'il les a appris par cœur, disait-il de Jaurès, je ferai la même chose.
Incroyable.
Alors, on parle de tous les talents du général de Gaulle. Dans quel domaine était-il, selon vous, le plus brillant, si on doit en citer un?
Je crois quand même que Charles de Gaulle, écrivain, il y a plus de débat. Je crois que tout le monde est d'accord. Mais il faut quand même qu'on cite son modèle. Son modèle, c'est Chateaubriand.
Donc on peut lui prêter même la formule « je serai Chateaubriand ou rien ».
Oui, oui, exactement. Mais la proximité avec Victor Hugo, là, ça s'impose, effectivement, oui.
Mais on sent que c'est un homme de tradition classique. Il avait lu les grands auteurs. D'ailleurs, on le voit dans sa bibliothèque à la Boisserie. Il lisait beaucoup, il était très cultivé. Ça change des chefs d'État dont on d'aujourd'hui, enfin disons partout dans le monde. Je parle pas en France, mais je pense à certains présidents qui ont pas lu grand chose.
Oui, c'est vrai, Stéphane. Mais ce qu'il y a, c'est que oui, d'abord, de Gaulle, il est imprégné de la grande culture classique. Faut pas oublier que son père, Henri de Gaulle, était professeur, et les chefs d'État aujourd'hui, est-ce qu'ils lisent toujours? On peut en douter. L'amiral Philippe de Gaulle dit que son père, toute sa vie, a lu au moins 3 livres par semaine.
Oui, ce qui est incroyable quand on est président de la République.
Ben voilà, les fonctions qu'on occupe, comment on a le temps?
C'était aussi...
Il dormait peut-être pas beaucoup, mais il fait partie de ses hommes
politiques. C'était aussi le cas de François Mitterrand.
Oui, il lisait beaucoup. Et il collectionnait les livres aussi.
Voilà.
Alors, Jacques Santamaria, Patrice Duhamel, votre série, entre fiction historique et fiction du réel, brosse le portrait de 30 ans d'histoire de France, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, la fondation de la Ve République, ou encore mai 68. Et vous levez le voile aussi sur un aspect plus méconnu de Gaulle, sa part secrète, l'homme dans l'intimité, mal connu des Français. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore de pipolisation de la vie politique. Ah ouais. On ne savait pas grand-chose du général de Gaulle.
Il n'y avait pas encore la pipolisation. Mais surtout, il détestait les photos. Il y a une célèbre séance photo, les auditeurs pourront retrouver ça facilement sur Internet, qui est prise dans une maison à côté de Londres, et où on voit bien que le général de Gaulle et sa femme Yvonne sont pas extrêmement à l'aise. Il aimait vraiment pas ça. Mais ce qu'on a voulu montrer, mais Jacques le développera, c'est à côté de l'homme d'État, et c'est l'éclat de l'homme d'État et le secret de l'homme privé. C'est la personnalité étonnante, extrêmement méconnue d'Yvonne de Gaulle, dont on a dit qu'elle était effacée, timide, réservée. Il y a une phrase dans les archives en radio d'Yvonne de Gaulle, de toutes les archives françaises, il y a une phrase qui a été prise à la volée, comme ça. Mais c'est absolument extraordinaire. Elle a accompagné le général de Gaulle dans tout son parcours à Londres, à Alger, 10 ans à l'Élysée, etc. Et il n'y a aucune archive sonore en dehors d'une phrase volée. Mais elle a joué un rôle absolument majeur. Et on voit dans le film, là, le rôle qu'elle a joué. Et puis, il y a le de Gaulle père, avec ses 3 enfants, et notamment sa 3e fille, qui est handicapée, qui est trisomie 21, et pour laquelle il a et Yvonne, ils ont une tendresse absolument infinie, dont ils s'occuperont en permanence, alors qu'à cette époque-là, souvent, les enfants qui avaient ce handicap ne restaient pas dans leur famille, et ça a profondément marqué le couple. Et puis il y a aussi le de Gaulle, l'oncle, avec cette nièce tout à fait exceptionnelle, Geneviève Antonioz de Gaulle, et il y a une scène dans le film qui a été diffusé lundi dernier, où on voit Geneviève rentrer des camps de Ravensbrück et raconter ce qui correspond à la réalité. C'est toute la partie réelle de cette fiction, la vie dans les camps devant son oncle et sa tante.
Mais pour revenir justement sur l'histoire d'amour entre Charles et Yvonne, 50 ans d'amour incarné à l'écran d'ailleurs magnifiquement par Constance Dolé et Samuel Labarthe, c'est un couple fusionnel, exceptionnel d'ailleurs. Elle paraît, vous avez raison de le dire, elle a l'air discrète, mais en fait elle a joué un rôle essentiel à la fois dans la vie privée et puis comme soutien public du général.
Oui, c'est tout à fait vrai, parce que d'abord elle a été présente familialement et auprès de son mari, elle a toujours été présente. Quand on imagine qu'ils ont vécu 50 ans d'une vie commune plus qu'agitée, il faut voir ce qu'ils ont traversé, le nombre d'épreuves, ce qu'ils ont connu, ce qu'ils ont vécu, eh bien, il y a un amour qui résistait. On voulait raconter ça, on voulait raconter, oui, une histoire d'amour, avec une femme qui, dès 1946, ne pense plus qu'à une seule chose, c'est faire rentrer son mari à la maison et qu'il n'en sorte plus. Elle le dit, ça, il y a des témoins qui nous l'ont répété, elle le dit, il en a assez fait comme ça. Quand il démissionne en 1946, elle espère bien que
c'est fini.
Bon, malheureusement, elle se trompe.
Mais et 20 ans plus tard, en 65,
elle fait quasiment
campagne pour qu'il ne se présente
qu'il
pas
se représente
à la présidentielle.
Pas.
Ce qui est étonnant dans le couple, dont Stéphane a raison de dire que c'est un couple très fusionnel, c'est que la première rencontre entre Charles de Gaulle et Yvonne Vandroux, elle s'appelait Vandroux à ce moment-là, c'est ce qui était totalement classique et habituel et très fréquent à l'époque, c'est une rencontre arrangée par les familles respectives.
Au cours d'un bal.
Voilà, et puis ils vont clairement tomber amoureux l'un de l'autre. Voilà, et à partir de là, ils vont vivre les périodes agitées que nous et décrivons dans la série.
En 1920, quand ils se rencontrent, Yvonne de Gaulle, avec détermination, dit « ce sera lui ou personne ».
Ils étaient tous les deux la même mentalité, extrêmement déterminée, visiblement.
Absolument.
En amour aussi. Jacques Santamaria, Patrice Delhomme, vous restez avec nous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Nous sommes toujours avec Jacques Santamaria et Patrice Duhamel, auteurs de la série De Gaulle, l'éclat et le secret, diffusée ce soir sur France 2. Elle est aussi l'éclat de notre émission, elle connaît tous les secrets. Clémentine Portier-Kaltenbach.
Oh, c'est trop gentil, Stéphane. Oui, l'intimité du général de Gaulle, c'est une chose bien délicate d'en parler, car il était d'une grande pudeur et d'une parfaite discrétion. Il ne reste d'ailleurs que très très peu d'objets intimes du général de Gaulle, et pour cause, il avait exigé de sa femme et de son fils qu'ils détruisent absolument tout, tous les objets, tous les vêtements, tous les objets personnels qui lui avaient appartenu. Nulle relique ne devait être constituée. Aussi, dans les heures qui ont suivi la mort du général de Gaulle, eh bien, sa femme et son fils ont fait un grand feu de joie de tous les effets personnels du général dans le parc de la Boisserie. Donc évidemment, tous les objets de l'intimité, même le matelas d'ailleurs, pyjama, vêtements, costumes, pas de reliques. C'était contraire à l'éthique du général. Et il savait bien également que les grands morts ne s'appartenaient pas. Et c'est pour cela qu'il avait demandé par testament à ce que jamais sa dépouille ne soit déplacée de Colombey. Il savait très bien qu'on pouvait s'approprier n'importe quel objet, élément de ce qui allait devenir une légende. Il y a quand même quelques effets qui ont échappé à cette règle très stricte et qui sont exposés au musée de l'armée. Par exemple, il y a un veston de cuir version 1935 pour troupes motorisées qui est un don au musée des Invalides du général de Gaulle en personne. L'un de ses képis qui a été offert par le général de Boissieu. Le général de Boissieu étant donc le gendre du général de Gaulle, l'époux de sa fille Elisabeth. Et puis il y a sa vareuse, une vareuse confectionnée à Londres en 43 qui est exposée, qui est un don de la Fondation de la France Libre. Alors, peut-être que pour accéder à une part de cette intimité du général, on peut le faire en évoquant précisément sa fille Anne, dont vous avez dit quelques mots tout à l'heure. Donc Anne, dernier enfant d'Yvonne et Charles de Gaulle, elle naît le 1er janvier 1928 à Trèves, où le général était alors en garnison. Et dans un premier temps, cet enfant qui est extrêmement fragile ne suscite pas plus d'inquiétude que cela parce qu'on dit sa mère a eu un accouchement extrêmement difficile, mais malheureusement les mois passant, eh bien les parents se rendent compte que Anne souffre d'un retard cognitif majeur dû au syndrome de Down ou aussi appelé trisomie 21. Et en janvier 1929, Yvonne de Gaulle écrit « Nous abandonnerions tout ce qui est ambition, fortune, etc. » si cela pouvait améliorer la santé de notre petite Anne. En fait, de traitement, seule la présence et la tendresse des siens pourront apporter à leur fille un peu de réconfort. Donc, c'est cette tendresse, le général de Gaulle, qui est pourtant pas homme à se laisser aller aux élans d'affection, va la dispenser sans compter à celle qui nomme ma pauvre petite Anne, mais aussi ma joie. Et malgré le poids de ses obligations, son père parvient toujours à trouver un peu de temps pour elle. Et dans une biographie que lui avait consacrée Jean Lacouture, il racontait qu'elle avait eu toutes les peines du monde à dire le mot maman, où n'y serait quasiment jamais parvenue, mais qu'elle semblait éprouver une vraie joie à prononcer le mot papa. Alors, vous le disiez tout à l'heure, monsieur, oui, ses parents se refusent absolument à la confier à une institution spécialisée et ils engagent une certaine Marguerite Potel, qui lui est toute dévouée et grâce à elle, eh bien, jamais Anne ne quittera ses parents. Donc, elle les suit au Liban, à Paris, à Londres pendant la guerre, et puis, bien sûr, à la Boisserie. Et c'est à la Boisserie, le 6 février 1948, à la suite d'une bronchopneumonie, qu'Anne meurt à 20 ans dans les bras de son bien-aimé père. Se recueillant sur sa tombe, le général de Gaulle aurait dit à son épouse, maintenant, elle est comme les autres. Après l'attentat raté du petit Clamart, le général racontera également qu'une des balles qui aurait pu s'avérer mortelle pour lui avait été arrêtée par le cadre d'une photo que Yvonne de Gaulle portait toujours sur elle. Donc c'était comme un signe que leur fille leur adressait. Et c'est en pensant à leur fille précisément que les De Gaulle ont créé en 1945 la fondation Anne de Gaulle pour les jeunes femmes handicapées mentales sans ressources. Ils acquièrent sur leur propre fonds le domaine de Millon-la-Chapelle où sont hébergées ces jeunes filles. Et depuis cette époque, l'intégralité des droits d'auteur du général de Gaulle a toujours été versée à cette fondation, dont la devise est « accueillir, accompagner, aimer » et l'emblème « un cœur enrobant une croix de Lorraine ». Et c'est auprès de sa fille Anne, naturellement, que le général de Gaulle a souhaité reposer au cimetière de Colombey les deux églises. Anne, dont il avait dit encore, il avait cette belle phrase, elle était aussi une grâce, elle m'a aidé à dépasser tous les échecs et tous les hommes, à voir plus haut.
Dans l'intimité du général de Gaulle avec vous, dites-moi, il y a un mot que vous avez dit qui m'a interpellé, vous dites « sur ses propres fonds ». J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est propre au général de Gaulle. C'est quelqu'un qui ne cherchait pas du tout, il avait beaucoup d'ambition, mais il n'avait pas du tout la soif de l'argent. Et tout ce qu'il faisait, y compris à l'Élysée, évidemment, il veillait à ce que ça soit toujours sur ses propres deniers personnels, pour qu'il n'y ait aucune confusion avec l'État. C'était quelqu'un qui a vraiment été très précautionneux de ce côté-là.
Non seulement le général, mais également Yvonne de Gaulle.
Elle-même.
On raconte, et c'est totalement vrai, qu'il y avait un compteur électrique qui avait été installé à la demande du général pour mesurer sa consommation d'électricité qu'il payait lui-même à l'Élysée.
Ça paraît fou.
De même que
Yvonne de Gaulle, que pour la boucherie, elle allait à la boucherie, elle disait quand c'était pour un repas de famille, ça c'est pour moi, c'est sur mon compte.
Ah. Oui, elle, lorsqu'elle recevait, effectivement, elle recevait ses enfants et ses petits-enfants, il était hors de question que ce soit l'État qui paye les repas. Elle allait faire ses courses.
Bien sûr, mais est-ce que, permettez-moi une question un peu iconoclaste, est-ce qu'il n'y a pas dans cette publicisation de cette modestie, de cette rigueur, une forme de posture et une façon déjà de forger sa légende?
Mais c'est pas lui qui en a parlé.
Oui. Non, mais par exemple, dans le fait d'avoir refusé à son fils, l'amiral de Gaulle, lors des compagnons de la Libération, alors qu'il l'aurait amplement mérité, en lui disant je ne peux pas, estimant qu'il ne pouvait pas remettre cette décoration à son fils, qu'on peut à la fois comprendre. Mais est-ce que, en servant sa propre légende, en l'espèce, il n'a pas commis une forme d'injustice, mais pour que son image soit absolument inattaquable, intacte, immaculée?
Non, parce qu'il n'y avait pas. Non, je crois pas, parce qu'il n'y avait pas de publicité autour de tout ça.
C'est plus tard.
C'est plus tard que les commentaires sont arrivés et il n'a jamais voulu, que ce soit pour son fils ou pour qui que ce soit de sa famille, qu'il y ait un quelconque avantage ou ce qui, de près ou de loin, pouvait ressembler à un avantage. Et lorsque il a été interrogé par certains de ses proches sur le fait que, effectivement, le titre de compagnon de la Libération n'avait pas été attribué à son fils Philippe, et la réponse était la même, il n'a fait que son devoir.
Oui.
Mais est-ce qu'il avait des défauts, cet homme-là? C'est fou.
Moi, je pense qu'il y avait une forme est-ce que c'est un défaut, d'ailleurs, quand on est à
l'orgueil,
ce niveau-là, une forme d'orgueil. Et d'orgueil dans la solitude.
Comment va la France? Mal, je vieillis.
Voilà.
Tout le monde ne peut pas sortir ce genre de choses.
Et puis, il lui arrivait de parler de lui à la troisième personne.
Quand même, petit côté Alain Delon avant. C'est vrai. Patrice Duhamel, Jacques Santamaria, vous restez avec nous, ainsi que Clémentine. Stéphane, là-haut, le général vous regarde. Essayez de ne pas le décevoir et de remporter enfin une édition du quiz.
C'est dur, non?
Bien sûr que c'est dur. Vous croyez que c'était facile de libérer la France? Un peu de nerf, Stéphane.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Alors que nous commémorons aujourd'hui les 50 ans de la mort du général de Gaulle, une autre guerre psychologique, celle-ci, se joue désormais ici chaque après-midi en studio, celle qui oppose dans le quiz Stéphane Bern à Clémentine Portier-Kaltenbach. Et hélas pour Stéphane, c'est la deuxième fois de l'histoire que l'expression « la grande débâcle » s'applique.
Oh non, faut pas exagérer.
Oui. Stéphane, au nom du souvenir du général, ressaisissez-vous, jouons à Bern to be alive, un quiz tout entier consacré aujourd'hui au général. Nos invités Jacques Santamaria et Patrice Duhamel sont restés là pour vous aider. Vous pouvez les solliciter. Clémentine, Stéphane, n'hésitez pas, ils peuvent vous sortir du pétrin au cas où. Alors, première question pour vous, Stéphane. Le général de Gaulle est mort exactement au même âge que son épouse Yvonne. Vrai ou faux?
Oh là là.
Allez-y au bluff, Stéphane.
De mémoire, attendez, il est mort à quel âge? Il avait quelques jours avant son 80e anniversaire.
Jusque-là, vous avez bon, Stéphane. Ce qui est déjà assez rare pour être souligné.
Écoutez, je pense qu'Yvonne avait été un peu plus âgée, mais je peux me tromper. Non, elle avait 79 ans aussi, je crois.
Donc votre réponse, Stéphane. Sont-ils morts au même âge? Vrai ou faux?
Oui, même âge, je dirais 79 ans.
Il dit vrai, Stéphane. Je vous rappelle une règle du quiz. Interdiction de regarder sur Google en même temps, hein?
On est d'accord, Stéphane.
On est d'accord. Bah... Le général est mort un 9 novembre 1970. Le 22, il aurait eu 80 ans. Yvonne avait 10 ans de moins que Charles. Elle est décédée en 1979. Vous faites le calcul. Effectivement, ils sont morts au même âge. Clémentine, question numéro 2 pour vous. Restons sur Yvonne, si j'ose dire. En avril 1960, Charles de Gaulle et son épouse sont invités au palais de Buckingham. Un des convives demande à la femme du président de la République française qu'est-ce qu'elle attend avec le plus d'impatience en vue de sa retraite prochaine. Tentant de répondre en anglais, elle dit alors « happiness ». Mais, à cause d'un accent approximatif, tout le monde comprend... Tout le monde comprend, vous avez dit quoi?
Un pénis. Elle dit que, oui, exactement, un pénis, parce qu'elle ne savait pas prononcer happiness, donc elle a fait une blague de mauvais goût à l'insu de son plein gré.
Nous sommes face à un cas rarissime dans ce quiz, c'est-à-dire que vous avez répondu à la question avant même que j'ai fini de la poser. Vous gagnez 2 points.
Voilà, c'est une
anecdote. Vous la connaissez, messieurs, cette anecdote?
Oui, mais j'arrive pas à croire qu'elle est vraie.
Ah, vous pensez que c'est une légende?
Oui, ça a été déformé.
Là, je suis pas totalement sûr de la véracité des choses.
Et puis, vous l'avez mal raconté, excusez-moi, Mathieu, parce que elle est à table, elle, oui, qu'attendez-vous, elle dit a penis, et c'est là que le général de Gaulle la reprend en disant, Yvonne, excusez-moi, mais je crois qu'en anglais, ce mot se dit.
Je n'avais pas cette version-là. Cette version-là n'est pas arrivée jusqu'à moi, effectivement, elle est croustillante. Stéphane, question numéro 3 pour vous. Charles de Gaulle portait son alliance à l'annulaire droit, sauf quand il l'a portée à l'annulaire gauche. Du coup, il existe des statuts du général où son alliance est à droite et d'autres où elle est à gauche. Vrai ou faux ? C'est une question éminemment historique, Stéphane.
Oui, je le sens. Écoutez, j'en ai aucune idée.
Attention, vous n'avez qu'un point. Hein. Clémentine en a deux déjà.
Oui, bah, je pense que
ça doit être une diversion, ça, Stéphane. Pourquoi le général de Gaulle était un homme de tradition, il aurait
il porté... Il le portait à la main
votre
droite,
réponse, Stéphane.
Il portait que l'alliance à la main droite.
Absolument. Vous avez perdu.
Oh.
Ah bon ?
J'ai réponse, vrai. Le général avait été blessé à la main gauche durant la Grande Guerre. Il souffrait de douleurs dans les doigts. Du coup, il alternait son port d'alliance. Ah. Et il existe bien des statues où son alliance est à sa main
souvent,
droite.
Le plus souvent, la main droite.
Ah oui, le plus souvent. Mais là, la réponse était donc vraie. Il alternait de temps en temps l'alliance.
Dommage,
c'était une question vraiment
Stéphane.
Très très pointue.
Oui, très pointue historiquement, là, vous avez raison.
Clémentine jubile déjà. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Il y a plus d'hommes à bord du porte-avions Charles de Gaulle ou plus de rues en France portant le nom de Charles de Gaulle?
Oh, il y a plus de rues en France qui portent le nom de Charles de Gaulle, ça me paraît évident.
La réponse a fusé.
Vous avez...
Encore une défaite pour Stéphane Bern.
36 000 communes dont pas une ne doit pas apporter le nom de avoir une rue sans le nom de Gaulle, ça m'étonnerait.
Je vais vous donner les chiffres. 3 903 rues portent le nom du libérateur de la France. 3 903 rues. Et le porte-avions peut accueillir 1860 hommes à bord.
Ah, c'est beaucoup plus.
Rue, avenue, place, aéroport, etc.
Ah oui, voilà. Mais bien sûr.
Si on ajoute tout.
Approximation.
Oui, approximation, mais c'est néanmoins une belle victoire pour vous, Clémentine. Stéphane, je ne vous félicite pas.
J'avais gagné vendredi, franchement.
Le rappel, c'est d'une mesquinerie qui ne ressemble pas au général.
Oui, on remercie nos invités, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria, parce que c'est formidable cette série. Je vous le dis, hein, De Gaulle, l'éclat et le secret. Suite et fin, ce soir, 21h05 sur France 2. Les trois premiers épisodes sont toujours disponibles en replay sur le site France.tv.
Merci messieurs.
Merci.
Merci beaucoup.
Sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre chaque après-midi, vous le savez, la rencontre improbable de trois figures de l'histoire qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun.
Et aujourd'hui, à l'occasion des 50 ans de la mort du général de Gaulle, on évoque trois immenses orateurs.
Oui Stéphane, après votre admirable portrait du général de Gaulle lui-même, l'homme qui a dit...
Noirette.
Non Stéphane, non tout court et de manière un peu plus convaincue que vous, vous allez vous atteler à présent au portrait d'un autre orateur de génie dont vous partagez les idées révolutionnaires, Mirabeau.
Quant à vous Mathieu, vous nous parlerez d'un orateur génial qui a eu en plus la bonne idée de rester vivant.
Oui, c'est un génie de la bouche qui peut scander Molière, La Fontaine ou Céline et scander avec autant de passion Cindy des Marseillais à Miami.
Moi je m'en bats les couilles, moi je suis pas, ils sont pas faux.
Fabrice Luchini est à l'aise dans tous les registres, c'est un peu pour ça qu'on l'aime.
Aussi on les aime, ce sont les chroniqueurs d'Historiquement Vôtre, David Castello-Lopez qui nous raconte les origines de l'enregistrement sonore.
Oui, exactement. Hein. S'il n'y avait pas l'enregistrement sonore, De Gaulle, on n'entendrait pas aujourd'hui. Oui.
Vous êtes sur Europe 1, mesdames et messieurs, puisque c'est la radio, la logique, tu vois. L'enchaînement logique est fort et puissant.
Et Olivier Pouls rend hommage aussi au général. Dans une flûte ou dans une coupe, Olivier, vous nous parlerez du champagne drapier.
Oui, le champagne fétiche du général. Il a même une cuvée à son nom aujourd'hui.
Et plutôt dans une coupe que dans une flûte, le
plutôt
champagne.
Plutôt même dans un verre, vous dirais-je.
Dans un verre même. Ouais. Pourquoi vous êtes anti-flûte?
Parce que
vous êtes anti-flûte, on peut le dire, il faut en parler.
Ça n'exprime pas parfaitement les arômes d'un grand champagne. Et un grand champagne, c'est un grand vin, c'est complexe. Et ça mérite mieux qu'une flûte, voilà.
Ah oui, mais un grand champagne, un champagne moyen, une clairette de vie, on peut...
À la limite, mais dans ce cas, vous mettez du cassis et puis on n'en parle plus.
Et quant à vous, Stéphane, mon cher, vous aurez évidemment le mot de la fin. Chaque jour, l'origine d'une expression...
Qui correspond un peu à l'ambiance dans ce studio.
C'est-à-dire ?
C'est la chienlit.
Oh, mais je vous en prie, Stéphane.
Expression popularisé par le général de Gaulle en mai 68, parce qu'en France, c'était vraiment la chienlit.
Mais tout de suite, découvrons notre deuxième grand orateur du jour, Mirabeau,
Stéphane, propulsez-nous dans votre période historique préférée, celle de la Révolution française.
Ah, ça ira, ça ira, ça ira.
Allez, Stéphane, tous ensemble.
Les aristocrates,
on les aura. Stéphane Bern qui chante Ah, ça ira, c'est uniquement sur Europe 1.
Europe 1, 16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Le 10 mai 1790, notre deuxième personnage du jour écrivait à Louis XVI « Je promets au roi loyauté, zèle, activité, énergie et un courage dont peut-être on est loin d'avoir une idée. » Drôle de promesse quand on sait que cette lettre est signée Mirabeau.
Peut-on être à la fois extrêmement laid et séduisant ?
Bon, je vous en prie Stéphane.
Non, je vous pose la question Mathieu, car le personnage dont nous allons parler maintenant prouve qu'une telle chose est tout à fait possible. Honoré Gabriel Riquetti, comte de Mirabeau, défiguré par la petite vérole dès l'âge de 3 ans, qualifié de monstre par Marie-Antoinette, d'une laideur grandiose et fulgurante selon Victor Hugo, traînant derrière lui une réputation sulfureuse de libertin et de débauché, bref, ce grand orateur de la Révolution n'avait pas son pareil pour amadouer son audience, et je ne parle pas que des députés de l'Assemblée nationale. Cette aisance à l'oral, cette maîtrise de la rhétorique ont valu à Mirabeau le surnom d'orateur du peuple. Une réputation qui a traversé les siècles puisqu'en 2011, le concours national d'éloquence de Sciences Po a été baptisé Prix Mirabeau. Comment s'explique un tel bagout ? Comment est-il devenu l'une des figures de la Révolution ? Le symbole de l'éloquence parlementaire en France ? La jeunesse de Mirabeau, vous allez le voir, n'est pas un long fleuve tranquille. Mais ce sont certainement ses difficultés qui vont faire de lui un tel personnage. Impétueux, refusant les exigences de son milieu, un autodidacte de la rhétorique, un homme rejeté par ses pairs de la noblesse, mais accueilli à bras ouverts dans une toute autre famille, celle des révolutionnaires, un clan que pourtant, il va finir par trahir. Notre histoire commence en 1749, l'année de sa naissance. Issu d'une famille désargentée de la noblesse provençale, Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau reçoit une éducation soignée. Il fait montre d'une intelligence supérieure à la moyenne, d'un esprit vif, d'une mémoire remarquable, mais ses relations avec son père sont difficiles. Le marquis de Mirabeau, économiste de renom, n'est pas un père aimant. Il aime mal cet enfant difforme, né, dit-on, avec une tête énorme. D'autant que le jeune Honoré Gabriel est un esprit rebelle, à tel point qu'au cours de sa jeunesse, il fait plusieurs séjours en prison. Coureur insatiable, il provoque des scandales partout où il passe. Désertion de l'armée, dette, son père qui le surnomme Monsieur l'Ouragan le fait enfermer à plusieurs reprises. Il espère ainsi le remettre dans le droit chemin. Sur l'île de Ré, au château d'Yves, dans le donjon de Vincennes, au fort de Joux, bref. Mais le plus gros scandale est encore à venir. En 1775, il a alors 26 ans, il fait la rencontre d'une jeune femme mariée, Sophie Meunier, dont il tombe éperdument amoureux. Lui aussi est marié depuis quelques années à une certaine Émilie de Covey de Marignane. Mais aucune de ces deux unions n'empêchera les deux amants de fuir ensemble aux Pays-Bas. Ils seront rattrapés et condamnés. Sophie à l'enfermement à vie, Mirabeau lui est condamné à mort pour enlèvement et séduction. Il en réchappe mais restera 3 ans emprisonné dans le donjon de Vincennes. Anecdote amusante, il fait au cours de ce séjour la rencontre d'un autre rebelle bien connu, le marquis de Sade. Amateur comme le célèbre libertin d'écriture érotique, Mirabeau met à profit ses 3 années d'enfermement pour lire et écrire des essais érotiques, mais aussi des lettres à Sophie, un traité de mythologie, une grammaire générale ou encore un libelle contre la justice arbitraire. C'est à ce moment-là, presque 10 ans avant de défendre avec passion les intérêts du peuple, qu'il va véritablement se former à la rhétorique, en préparant lui-même sa défense lors de ses procès. Car il a encore plusieurs condamnations sur le dos et doit notamment s'occuper de l'épineux problème de son divorce. Dans son ouvrage « Les grands orateurs de la Révolution », l'historien Alphonse Allard revient sur la plaidoirie qu'il livre lors de cette séparation en 1783. Il a tant parlé, tant hurlé, tant rugi que la crinière du lion était blanche d'écume et distillait la sueur. Son destin est en marche. Incapable de se faire accepter par les siens au sein de la noblesse, il se tourne en 1789 vers une autre famille politique et se fait élire député du tiers-état à Aix-en-Provence. Son histoire, à partir de là, est intimement liée à celle de la France. Le 20 juin 1789, il fait partie des 300 députés qui se constituent sans l'accord du roi en Assemblée nationale. Leur but, rédiger une constitution pour la France. Il s'impose dès le départ comme l'un de ces hommes forts de cette assemblée. Lors d'une séance dans la salle du Jeu de Paume à Versailles, il aura alors cette phrase restée célèbre, adressée à l'émissaire envoyé par Louis XVI pour faire évacuer la salle. « Allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du peuple et qu'on ne nous en arrachera que par la puissance des baïonnettes. » De cette tirade, de cette « Allez dire à votre maître », Victor Hugo dira que c'est le roi de France devenu étranger, que c'est toute une frontière tracée entre le trône et le peuple, c'est la révolution qui laisse échapper son cri. Voilà Mirabeau projeté figure de la révolution, orateur du peuple, promoteur de la fraternité, une notion qu'il défend avec plus de fougue encore que la liberté et l'égalité. À l'Assemblée, il prononce ces mots. Je vous laisse apprécier la puissance de son verbe. L'histoire n'a trop souvent raconté des actions que des bêtes féroces parmi lesquelles on distingue de loin en loin des héros. Il nous est permis d'espérer que nous commençons l'histoire des hommes, celle de frères nés pour se le rendre mutuellement heureux. Il participe aussi à la rédaction de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sa popularité auprès du peuple est immense. Mais c'est un révolutionnaire modéré, partisan d'une monarchie constitutionnelle. Il se doute dès 1789 des débordements à venir. Quand on se mêle de diriger une révolution, la difficulté n'est pas de la faire aller, mais de la retenir, dit-il. Peut-être est-ce l'une des raisons de son double jeu, car Mirabeau travaille également au service du roi. A-t-il d'autres motivations? Financières, très certainement, car le roi le rémunère pour ses services. Mais ce lien avec la monarchie reste secret. Ni ses collègues députés, ni le peuple ne le soupçonnent. En mars 1791, il est élu président de l'Assemblée nationale. Il n'aura pas le temps de profiter de ses nouvelles fonctions. Il meurt prématurément, le 2 avril. Pour lui faire honneur, l'Assemblée nationale décide de l'inhumer dans l'église Sainte-Geneviève, qu'elle transforme pour l'occasion en nécropole nationale, le Panthéon. Mirabeau sera le premier à y entrer, mais pas pour longtemps. Sa trahison découverte un an et demi après sa mort lui vaudra d'en être exhumé en 1792.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Mirabeau, il nous fallait évidemment un grand orateur. On l'a trouvé en la personne de Jean-Paul Desprats, un historien qui connaît bien Mirabeau.
Absolument, parce que Jean-Paul Desprats est historien et romancier. Dans sa biographie consacrée à Mirabeau, parue chez Perrin, notamment, vous écrivez, Jean-Paul Desprats, « Mirabeau unit en lui la révolution, l'érotisme et la corruption ». C'est au fond votre définition de Mirabeau? Il était tout cela à la fois?
Tout cela à la fois, effectivement. C'est un aristocrate déclassé qui a vécu dans sa chair les abus de l'Ancien Régime, les lettres de cachet, la prison, et qui va profiter avec son érotisme absolument extraordinaire de ses temps de prison pour écrire de magnifiques livres érotiques.
Est-ce que c'est réellement un autodidacte de la rhétorique ou est-ce que quelle est la part de l'inné et l'acquis chez Mirabeau finalement?
C'est une culture immense qui va être la base de sa rhétorique magnifique. C'est le grand orateur, l'artiste, nous dit François Furet, l'un des récents plus intéressants historiens de la Révolution. Il avait pour cela des atouts physiques. Il avait une voix forte qui arrivait à venir à bout d'une acoustique déplorable. Par exemple, la salle du manège, c'est une acoustique déplorable. Il avait une gestuelle extraordinaire. C'était un monstre. Victor Hugo nous dit, il paraissait pétrir le marbre de la tribune. Et il avait le génie de l'improvisation. Ce génie de l'improvisation, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est quand il répond à Debrézé qu'il est là pour la volonté du peuple et qu'il n'en sortira que par la force des baïonnettes.
Ça, c'est une phrase qui lui vient, cette phrase historique lui vient spontanément. Il ne l'avait pas préparée dans le coin de sa tête au cas où ça dégénère.
Je pense qu'il a ce génie de l'improvisation. On le surprendra au détour de plusieurs de ces phrases merveilleuses, quand il réplique, c'est un homme qui sait répliquer dans le tumulte. Il faut imaginer cette Assemblée nationale dans cette salle rectangulaire, mal commode, où il est constamment interrompu par les vociférations de la tribune. Et chaque fois, il sait répondre.
Oui, mais par exemple, il y a un autre historien, Marcel Dorigny, qui l'accuse Mirabeau de n'avoir été que l'acteur d'un atelier qui lui fournissait l'essentiel de ses idées et de ses discours. Alors, il les écrivait, est-ce qu'il avait des plumes, est-ce que on lui soufflait les idées, ou est-ce que tout venait de lui?
Il avait un atelier. Effectivement, il avait un atelier extrêmement brillant. Il y a par exemple Dumont, qui est un des grands penseurs de la Révolution, Frochot, qui sera un futur préfet de Napoléon Ier, Clavière, qui est le spécialiste des questions économiques, c'est le créateur de l'assurance vie. Et il y a, et il ne le dira pas trop, mais il passe ses journées avec Talleyrand. Le dernier discours qui sera prononcé le lendemain de la mort de Mirabeau en avril 91 sur l'éducation, ils l'ont écrit ensemble et c'est Talleyrand, les yeux pleins de larmes, qui donnera ce discours à la tribune de l'Assemblée.
Un mot sur son physique, pour le moins atypique, hein, puisque Hugo va jusqu'à comparer Mirabeau à Quasimodo. Et il a transformé sa laideur en force, en arme. Est-ce qu'il en a souffert? Est-ce qu'on sait ça?
Je pense qu'il l'a complètement, il s'en est complètement servi. Et avec beaucoup d'humour, quand il arrive en Angleterre, par exemple, il demande à adhérer au Ugly Club.
Le club des moches.
Et il va s'en servir, et ça sera un argument, ce côté faune. Il a eu la petite vérole tout jeune, et on l'a soigné avec du sperme de baleine, qui lui a donné cette espèce de peau complètement croûtée.
Ne faites pas ça chez vous.
Mais ça lui donne un succès fou, parce que il y a la curiosité, et les femmes sont très attirées par Mirabeau. Mourant, il est quasiment mourant, 3 jours avant sa mort, il va passer sa nuit avec 2 actrices de la Comédie Française.
Incroyable. Il s'est ennuyé jusqu'au bout. Hein.
Oui, oui. Mais quel homme était-il? C'était un obsédé de la liberté, un rebelle, et puis un érotomane aussi, enfin, pardon, mais emmener une jeune femme comme ça, à l'époque, quand on est marié, et qu'elle est mariée aussi, il l'a déshonorée en quelque sorte.
Ah, il était coutumier du fait. Son mariage avec Émilie de Marignane est stupéfiant, puisque il va s'introduire chez elle la nuit et le lendemain se montrer sur son balcon en caleçon, ce qui va faire qu'on va être obligé de faire ce mariage, qui est un mariage très inégal, parce qu'il va épouser une des filles les plus riches d'Aix-en-Provence. Alors, sur le plan des idées, Mirabeau, il est monarchiste, profondément monarchiste, mais il veut nationaliser la royauté. Nationaliser la royauté, c'est-à-dire que la nation soit au roi et le roi à la nation, c'est-à-dire que l'origine du pouvoir et la légitimation du pouvoir ne vient plus du droit divin, mais vient de la volonté populaire. Et c'est là tout son combat. Et même, il va défendre les droits de la monarchie contre le roi lui-même, quand dans ce fameux débat qui est au début de la Constitution, des premiers débats sur la Constitution, où il va défendre le veto absolu du roi, alors que le roi et Necker vont se contenter d'un veto relatif.
Mais justement, on l'a accusé de jouer un double jeu, c'est ce qui a fait que on l'a fait entrer au Panthéon et on l'a ressorti aussitôt. Est-ce qu'il était sincère? Est-ce qu'il a trahi le roi, ou est-ce que finalement c'est un révolutionnaire qui a travaillé à réconcilier le roi avec la révolution? Vous le dites très justement, on l'oublie un peu. C'est un monarchiste. Enfin, on peut dire qu'il était favorable à une monarchie constitutionnelle telle que on la connaissait en Angleterre.
Alors, il est favorable à une monarchie constitutionnelle, mais à un pouvoir exécutif fort. Et ce que la Révolution va chercher pendant un siècle et demi, c'est ce pouvoir exécutif fort. Et on ne le retrouvera réellement que dans la Constitution de 1958. C'est un homme aussi, je pense, à sa sincérité, parce que tout ce que on va lui reprocher plus tard, ce pourquoi il va être évacué du Panthéon, c'est-à-dire la fameuse armoire secrète dans laquelle on va trouver sa correspondance avec Louis XVI, en réalité, cette correspondance avec Louis XVI ne dit jamais plus que ce qu'il dit publiquement. Il donne toujours les mêmes conseils au roi. Accepter de dépendre de la volonté populaire et surtout ne pas mettre un orteil en dehors des frontières du royaume, ce que le roi, 2 mois après sa mort, ne va pas observer en partant à Varennes.
On a l'impression d'un génie piégé dans une époque très complexe qui tente de faire la synthèse de beaucoup de choses. C'est quelqu'un de très complexe, Mirabeau.
Il voit à la fois tous les grands problèmes. Et c'est, par exemple, c'est l'homme qui s'empare des problèmes très complexes, comme l'esclavage. L'esclavage, c'est l'homme qui va se battre contre les députés de la Gironde, qui sont des esclavagistes, qui soutiennent le parti colonial. Lui va aborder un premier problème de l'esclavage, qui est la traite. Il veut la suppression de la traite. C'est une idée assez dans l'esprit du temps, où en pensant que le bon maître, comme dans la case de l'oncle Tom, en nourrissant bien ses esclaves, les fera croître à son service, dans le bonheur, sans qu'on ait besoin d'aller rafler des gens en Afrique. Il va s'attaquer également au statut des Juifs. chaque historien apporte sa petite pierre. Moi, j'ai apporté quelque chose dans la biographie de Mirabeau, c'est qu'il avait, par sa grand-mère Lange, des origines juives. Et c'est pour ça qu'il va défendre le statut des juifs. Il ne va obtenir la liberté que pour les juifs du Midi, et la liberté pour les juifs d'Alsace ne sera donnée qu'après sa mort.
En tout cas, c'est passionnant. Il faut vraiment lire votre biographie, Jean-Paul Desprats, votre biographie Mirabeau, parue chez Perrin, rééditée en format poche Tempus. Et vous venez de publier Le guerrier philosophe, mémoire apocryphe du prince Eugène de Savoie aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, Jean-Paul Desprats, d'avoir
Merci
été avec
vous.
Nous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, à l'occasion des 50 ans de la disparition du général de Gaulle, on évoque les grands orateurs de l'histoire. Après vous avoir parlé du général de Gaulle, lui-même, et de Mirabeau, Mathieu, vous aviez pour mission de trouver un grand orateur vivant, contemporain. C'est chose faite en la personne de Fabrice Luchini, n'est-ce pas ?
Oui, Stéphane. Alors, j'ai connu des choix plus difficiles, là, parmi les contemporains. Dans la catégorie « Quand tu parles, tout le monde t'écoute », Fabrice Luchini s'impose assez vite comme une évidence aux dépens d'autres personnages charismatiques de premier plan, dont les accents lyriques nous subjuguent à chacun de leurs discours. Oui, comment le nier ? Pour cette spéciale grands orateurs, j'ai longuement hésité entre Fabrice Luchini et Jean Castex.
Faut-il rappeler que la sécurité sociale a démontré aussi, dans cette crise, d'autres forces ?
Oui.
Lors des derniers mois.
Oui, avant de faire donc plutôt quand même pour Luchini, car les discours de Jean Castex, comme dirait justement Luchini...
C'est pas la déglingue, hein.
Vouloir présenter Fabrice Luchini en 6 minutes est, je le sais, totalement illusoire, mais ce qui fait toute la singularité de Luchini, c'est sa capacité à ce que j'appellerais désnobiner la littérature. C'est vrai, avant Luchini et sa malice, son plaisir palpable à faire résonner les mots différemment, les lectures des grands textes étaient un peu chiantes.
Je courus et les péninsules des marées n'ont pas subi tube. Plus triomphant.
C'était souvent pompeux et compassé. Avec Luchini, la poussière déguerpit. Tel pourrait être le slogan de celui qui est devenu au fil de ses spectacles le Dyson des mots. Pourquoi les Dyson aspirent-ils mieux que les autres aspirateurs ? Personne n'en sait rien. Est-ce vraiment la technologie soi-disant révolutionnaire du cyclone multizone, comme l'affirme la pub ? Pas sûr. C'est juste comme ça. Et le mystère est identique avec Luchini. Pourquoi les mêmes mots, dans sa bouche, sonnent-ils différemment ? Il dit « les mots sont des notes de musique ». Ok ? Mais avec lui, même les notes mineures sonnent bien.
Tub, chat, chat, sain.
Chirac lui avait dit un jour en sortant d'une de ses lectures « Avec vous, Luchini, le bottin en anglais, ça marcherait autant ». Tout le monde n'a pas cette aptitude à enchanter les mots. Stéphane, pouvez-vous me lire ce qu'il y a sur ce bout de papier, s'il vous plaît ?
Sel de Guérande, coquillette, lait bleu, PQ Aquatube,
oui, bon, c'est QFD,
Multipiac, c'est QFD, jambon sans couenne.
N'est pas Luchini qui veut. Alors déjà qu'il emmènerait plus sûrement une femme à l'orgasme en lisant sa liste de courses pour le shopping que moi en lisant à cette même femme les plus beaux poèmes de Pablo Neruda, imaginez quand Luchini leur déballe sa version de Voyage au bout de la nuit.
Oh, elle est magnifique.
Et oui, qui dit grand orateur dit grand pouvoir de séduction. Alors même si c'est un peu tard pour nous Stéphane, je vais tenter de répondre à la question que vous vous posez, que tous les hommes se posent. Comment devient-on Fabrice Luchini ? Déjà, en ne vous appelant pas Fabrice Luchini, mais Robert Luchini. C'est avec le nom prédestiné d'un célèbre dico qu'il vient au monde en novembre 51 à Paris. Comme je vous l'ai dit, pour Luchini, le travail est primordial. Sur le métier, 100 fois tu remettras ton ouvrage. C'est vraiment le dicton qui l'habite dès l'adolescence. À la question, comment vous êtes-vous forgé cet amour des mots, cette culture que vous avez, alors que vous avez assez peu fréquenté les bancs de l'école ? Comment occupiez-vous votre journée ado ? Luchini répond de but en blanc.
Je me tirais sur la tige 10 fois par jour.
Notez que si je prononçais cette phrase, on serait dans le vulgaire. Si vous la prononciez, Stéphane, on serait dans la science-fiction. Mais quand c'est Luchini, ça passe crème. Son sens du verbe, ce n'est donc pas en cours de français qu'il l'exerce, mais en vendant des légumes à la criée aux côtés de son père, sur les marchés. À 13 ans, sa mère le place comme apprenti coiffeur dans un salon huppé de la capitale. Tous ses clients, pour une raison obscure, l'appellent Fabrice. C'est irrationnel, je vous le concède, mais en y réfléchissant bien, effectivement, je confierais plus volontiers ma tête à un Fabrice qu'à un Robert. Il y a un petit côté charcutier maladroit chez Robert qui ne mettrait pas en confiance chez le coiffeur. Réciproquement, pour me découper proprement un jambon à l'os, je n'aurais aucune confiance en un Gonzague, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'inégalité nominative. Bref, côté ciseaux, Robert n'est visiblement pas un surdoué, mais il est un as de la relation client. Avec lui, pas de « Alors, Madame Beauclichet, il fait frais ce matin, on dirait que l'hiver est en avance. » Non, vas-y, qu'il les hypnotise avec des extraits de grands classiques de la littérature qu'il dévore à cette période. Racontés par lui, Balzac, Flaubert et Proust deviennent pour les clientes plus attrayants que tous les potins de France Dimanche. Donc, les jeunes, on se souvient du conseil numéro 1 pour devenir Fabrice Luchini, ne pas trop s'éterniser à l'école et beaucoup, beaucoup se tirer, découvrir son corps. Conseil numéro 2, fréquenter assidûment les discothèques. Alors, ok, par les temps qui courent, je vous le concède, vous aurez plus de facilité avec le conseil numéro 1. Mais quand ça ouvrira à nouveau, hâtez-vous, jeunes gens, d'aller guincher sur le dance floor. C'est ainsi que Fabrice Luchini se fait repérer. On est en 1968, le réalisateur Philippe Labro, en repérage pour son film Tout peut arriver, va lui offrir son premier rôle. Il débute en même temps le théâtre, révélation. Mais Fabrice ne peut pas encore vivre tout à fait de sa passion. Il reprend la coiffure et livre des plats cuisinés toute la nuit. Là, on marque une pause, on ferme les yeux et on imagine le bonheur que ça serait d'ouvrir la porte à un livreur Deliveroo qui connaissent Nietzsche et qui vous disent, en vous présentant la margarita supplément raclette fumée que vous avez commandé.
Alors ça, c'est la merveille, c'est là où Spinoza ou même Lévinas, c'est merveilleux l'autre.
Oui, alors évidemment, question productivité horaire, Luchini ne devait pas être le livreur Deliveroo le plus efficace de sa génération, mais une fois encore, question relation client, il était imbattable. Heureusement, très vite, il n'aura plus besoin de faire le livreur car il rencontre Romer. En 85, leur troisième collaboration est un succès. Les Nuits de la pleine lune lui vaut une première nomination au César du meilleur acteur. Rien n'arrête plus l'ascension de Luchini qui, c'est vraiment sa singularité, la clé pour moi de son succès, brasse sans tabou ni complexe culture élitiste et culture populaire. L'emblème de cette joyeuse touze artistique, le film Jean-Philippe, où Luchini rencontre Johnny Hallyday dans un monde où Jean-Philippe Smet n'est pas devenu Johnny Hallyday. Un film que j'avais trouvé sympatoche à l'époque et que j'ai trouvé à la limite du génial l'autre jour en le revisionnant. Rien que pour cette scène où, passablement bourré, Fabrice Luchini chante du Johnny sous les fenêtres d'un voisin qui, par définition, c'est le pitch du film, ne connaît pas Johnny.
La musique vit, quand te vivra le blues.
Ma gueule,
ta gueule. Quoi, ma gueule?
C'est ce mélange des genres ébouriffants qui fera la légende de Luchini, la seule rockstar des lettres finalement qui est répertoriée. Il raconte les centaines de strings sur la scène, les milliers de soutiens-gorge, c'est ça ma vie. Stéphane, est-ce que vous aussi vous recevez des strings au lendemain des diffusions de Secret d'Histoire?
Rien du tout, je reçois rien du tout.
Plutôt des bas de contention.
Même
c'est...
pas.
C'est l'effet Luchini. Donc vous avez noté Stéphane, pour devenir Fabrice Luchini, ne pas aller à l'école, se tirer sur la nouille allègrement, sans souci du quand dira-t-on, aimer Nietzsche et Johnny, Céline et Céline. Un dernier conseil de vie pour la route, Fabrice.
Fumer du shit, aller à Katmandou et finir en Iran.
Je note.
Bah finalement, tout était vrai, Mathieu.
Tout était absolu. Bah, sa vie est tellement dingue à Luchini, oui, d'apprenti coiffeur, oui. Enfin, au sommet du cinéma français, qu'il n'y a pas besoin d'inventer du faux. Hein.
Non, ouais, évidemment. J'ai rien trouvé de faux. Non, c'était
pas. Vous le connaissez bien, vous êtes fan, vous aussi, Stéphane, vous l'avez reçu souvent?
Je suis fan et assez ami avec lui. Ah. Et il fait une parodie merveilleuse de Secret d'Histoire.
Il vous l'a fait en privé ou il l'a
en
fait?
En privé, mais il l'a fait en public aussi. Oui. Il dit, ma façon de m'extasier devant un pot de chambre de Marie-Antoinette le fait beaucoup rire. Voilà. Vous savez tout.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Rendons à César ce qui est à César. C'est à Stéphane Bern qu'on doit le recrutement dans notre équipe de David Castello-Lopez.
Oui, je sais, c'est une erreur. Je vous prie de m'excuser.
Mais non, Stéphane, il est super. Chaque jour, il nous raconte la genèse d'une invention qui est devenue partie intégrante de notre quotidien. Aujourd'hui, David, que seraient les grands orateurs sans l'enregistrement sonore?
Pas grand chose. Mathieu, Stéphane, Olivier, est-ce que vous vous souvenez de cet objet? Alors, on ne le voit pas à la radio, mais je vais le décrire un petit peu.
Ah, vous l'avez apporté.
Je l'ai apporté. Mm-hmm. C'est un dictaphone à micro-cassette. Des cassettes toutes petites, comme ça.
Moi, je l'ai gardé.
Mais voilà. Et pendant longtemps, c'était un peu la principale façon d'enregistrer des notes vocales. Quand j'avais 10 ans, moi, mon papa m'a donné le sien. Et comme j'avais déjà le goût de l'archive et que j'étais déjà mégalo, eh bien, je m'enregistrais en train de dire des trucs. Et il y a quelques mois, j'ai retrouvé une boîte avec toutes les cassettes de mon enfance. Et j'ai découvert des choses vraiment bien. Par exemple, ça, c'est moi, à 10 ans, en train de réciter une leçon d'anglais.
Hi, I'm Alison. Good afternoon, Alison. This is Michael. And this is Norman. And this is Rex. Oh, good afternoon, Rex.
Have you noticed my perfect English accent, even back then?
Mais quelle enflure! À chaque fois parfait. Qu'il peut nous rappeler qu'il est parfaitement bilingue, il y va et même.
Cette humiliation permanente est insupportable.
Même à 10 ans, il est déjà.
Même à 10 ans. Et ce témoignage merveilleux de mon polyglottisme précoce, eh bien, il n'existerait pas sans la possibilité d'enregistrer du son. Alors, vous allez me dire, ouais, enfin, il y a surtout les discours de De Gaulle qu'on a pu garder grâce à ça. Et ça me fait de la peine, voilà, ce que vous disiez, ça me fait de la peine, c'est comme ça. Mathieu, vous m'avez dit l'autre jour que vous étiez capable de dunker au basket, au moins dans votre jeunesse.
Non, oui, quand j'avais 20 ans.
Voilà, mais ça m'a rendu quand même un petit peu jaloux, parce que je suis un petit peu sensible au niveau du basket, parce que j'étais un peu humilié quand j'étais adolescent. Mais est-ce que vous pouvez deviner sur quel mécanisme très simple reposaient les premiers enregistrements sonores? C'est un petit peu vache quand même d'envoyer
ça. Ah oui,
c'était
des phonographes,
non? Mais surtout le mécanisme de base. que je vais donc vous expliquer.
Non, vraiment,
parce que moi, peut-être,
idée.
Je ne peux pas dunker.
mais vous en savez plus que moi.
Sur le son. En gros, le son, c'est de l'air qui se déplace. Et pour enregistrer un son, ce qu'il faut, c'est garder une trace de ces déplacements de l'air. Et les premiers enregistreurs, ce qu'ils faisaient, c'était de faire en sorte que le son qu'on produit fasse vibrer une membrane, à laquelle était attachée une pointe qui appuyait sur une surface molle, en fait. Vous voyez, le son
et
fait
qui
bouger.
Imprimait.
Et si le son était fort, ça appuyait beaucoup sur la surface et ça faisait des gros trous. Et si le son était faible, ça appuyait pas beaucoup et ça faisait des petit trou. Et la première personne qui a inventé un objet capable de faire ça, c'est un monsieur français qui s'appelait Édouard Léon Scott de Martinville. En 1853, il a déposé donc son brevet pour ce qu'il appelait le phonotographe, qui marchait vraiment pas trop mal pour ce qu'on lui demandait de faire. Mais le problème, c'est que la machine d'Édouard, il y a quelque chose qu'on lui demandait pas de faire, c'était de rejouer les enregistrements. Voilà, on enregistrait et c'est tout. C'était pas possible de les réécouter.
Bah donc ça n'avait aucun intérêt.
Bah dans une certaine mesure, non, c'est vrai. Mais quand même, ça enregistrait le son.
Mais
comment il savait que ça enregistrait puisqu'il pouvait pas le réécouter.
Il pouvait pas vérifier que ça marchait.
Mais pourtant ça marchait parce que ça imprimait.
Mais il réécoutait pas.
Son idée, c'était qu'en observant les courbes ensuite, on puisse quand même étudier la nature du son. Et il y a quand même des gens, il y a des linguistes en particulier qui ont utilisé son invention. Mais ce qu'il ne savait pas, Édouard Léon Scott de Martinville, c'est qu'en 2008, une des feuilles sur lesquelles il avait fait un enregistrement serait retrouvée par des chercheurs américains dans des archives à Paris, et que ces chercheurs, en utilisant des algorithmes auxquels j'ai rien compris, ils arriveraient à reconstituer l'enregistrement.
Donc que lui-même n'avait pas entendu.
Que lui-même n'avait pas entendu, et c'est ce qu'ils ont fait. Alors aujourd'hui, Mathieu, Stéphane, Olivier, j'aimerais vous faire écouter le premier enregistrement d'une voix humaine qu'on ait conservé. Il date du 9 avril 1860, il y a exactement 160 ans. Que vous avez
c'est au clair de la lune,
le premier enregistrement qu'on ait conservé, c'est un enregistrement d'Au clair de la lune. C'est quand même moi ça m'a énervé complètement quoi. Alors a priori la voix est aiguë, on pense que c'est plutôt une femme ou un enfant qui chante.
Oui, une petite fille, oui.
Mais en fait les chercheurs ils ont découvert qu'ils s'étaient probablement trompés dans la vitesse à laquelle ils ont joué l'enregistrement. Ils ont corrigé cette vitesse et écoutez à présent ce que ça donne. Alors il faut avoir un petit peu de patience parce que ça dure un petit peu plus de 20 secondes, ce qui est beaucoup à la radio, mais je pense que ça vaut la peine.
Là, c'est un homme.
Et là, c'est un homme.
Oui, il y a du vent aussi.
Et tout porte à croire donc que cet homme, c'est Edward Scott lui-même. Qui chante au clair de la lune dans la propre machine qu'il a inventée. Et ça a été une grande découverte, cet enregistrement, parce qu'il est 18 ans plus ancien que le plus ancien enregistrement qu'on avait jusqu'à présent, qui était fait par Thomas Edison en 1888. Thomas Edison, qui, on peut le dire, est l'inventeur de l'enregistreur moderne, c'est-à-dire un enregistreur qui permet d'enregistrer, mais aussi de jouer les sons qu'on a enregistrés sans attendre 160 ans qu'il y ait des informaticiens qui le reproduisent.
C'est quand même plus pratique.
Voilà.
Plus pratique. Mais en tout cas, merci de nous avoir replongé dans les origines de l'enregistreur sonore. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast et sur toutes les applis audio sur le site europe1.fr.
Vous n'avez pas conservé des petits enregistrements plus honteux que votre récitation
bien
parfaite en anglais? Vous avez des trucs honteux, vous avez quoi?
J'ai quelques petits trucs honteux, ouais.
Peut-être des poèmes de votre composition.
Oui, non, c'est surtout des petits moments de l'enfance où on imite des gens, ouais, gna gna, comme ça, des trucs un peu ridicules parce qu'on est très très mauvais acteur quand on est enfant.
Oui.
Ça veut pas dire qu'on est bon acteur plus tard, mais en tout cas, quand on est enfant, on est mauvais. Et voilà, j'ai des trucs très honteux. Peut-être au fur et à mesure qu'on apprend à se connaître cette année, j'en dévoilerai quelques-uns.
Au fur et à mesure. À vos côtés, Olivier Pouls, vous êtes prêt? On a faim, Olivier.
Bah écoutez,
mais aujourd'hui ça ne servait à rien d'avoir
non,
faim.
Parce
vous
qu'on
n'allez
a,
pas.
On a surtout soif,
on
j'espère.
On a soif en hommage au général
avec
de Gaulle.
Avec modération.
Absolument, je vais vous proposer de déguster avec moi une cuvée hommage au général de Gaulle.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
D'un côté, l'un des Français les plus célèbres, de l'autre, un Belge inconnu au bataillon. L'un a dit non au nazisme, l'autre non au véganisme. Mais en cherchant bien, on finit par trouver un point commun entre le général de Gaulle et Olivier Pouls.
Oui, et puis en termes de points communs, quel point commun autre que d'avoir été un grand homme pour l'histoire de leur pays et pour l'histoire tout court? Quel autre point commun le général de Gaulle et Sir Winston Churchill partagent-ils?
Chacun leur cuvée.
Ils étaient tous les deux amateurs de champagne et ils ont effectivement, Stéphane, chacun une cuvée qui porte leur nom.
Ça, c'est classe.
C'est quand même la classe. Vous imaginez la cuvée Stéphane Bern ou la cuvée Mathieu Noël.
La cuvée Stéphane Bern, ça arrivera probablement un jour.
Mais non. Une cuve, peut-être.
Alors, il faut bien dire qu'en termes de consommateurs de champagne, il n'y avait pas photo entre les deux. Sir Winston Churchill était réputé pour vraiment beaucoup aimer ça, si vous voyez ce que je veux dire. On pense qu'il en buvait pas loin d'une bouteille par jour, quand même.
Mais il était vraiment alcoolique, Churchill.
Ah, oui, bah, champagne, whisky,
les petites pépées,
ouais. Le tout avec un peu, avec quelques cigares pour faire passer. Ah,
on a les tubes, c'est les tubes de ma jeunesse.
Ah oui, parce que là, vous avez cité un tube, c'est quoi, champagne, whisky,
cigarette, whisky et pépé.
Toute une époque.
Oui, Eddie Constantine, vous étiez pané.
Je n'étais pas, j'étais même pas un projet, oui.
Alors, si Sir Winston Churchill avait jeté son dévolu, si l'on peut dire, sur la marque Paul Roger, grande marque de champagne, il en buvait beaucoup, à tel point que Paul Roger, en 1975, 10 ans après la mort de Churchill, a décidé de lui dédier une cuvée. Eh bien, notre général de Gaulle, lui, s'était tourné vers une autre maison beaucoup plus petite, beaucoup moins connue, une maison située dans l'Aube. Alors, l'Aube, c'est une partie de la Champagne un peu moins connue, moins réputée, mais qui est pourtant capable de produire de très beaux vins. C'est la maison Drapier. C'est une maison qui est toujours située à Urville, pas très loin en réalité de Colombelles, les deux églises.
Ah, c'est pour ça, c'est par proximité géographique qu'il a choisi.
Et les Drapiers se rappellent que le général venait personnellement de temps en temps remplir le coffre de sa déesse de champagne Drapier, alors qu'il servait lors de ses réceptions personnelles et qu'il aimait bien boire de temps à l'autre. Alors, c'est un champagne un peu différent de celui de Winston Churchill. Il y a comme un point commun, c'est le Pinot Noir, c'est qu'il y a 3 cépages dominants aujourd'hui qui constituent les vins de champagne, le Pinot Noir, le Chardonnay et le Pinot Meunier sont deux champagnes qui sont à base de Pinot Noir, des champagnes assez structurées. Et en 1990, pour célébrer le 50e anniversaire du fameux appel du 18 juin, la maison Drapier a donc décidé, elle aussi, de créer une cuvée en l'hommage du général de Gaulle, cuvée que vous pouvez toujours trouver. Donc si vous avez
c'est
envie
cher.
De faire... Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que...
c'est,
alors,
que c'est très cher, c'est 600 euros la bouteille.
Non, alors la cuvée du général de Gaulle coûte entre 35 et 40 euros, alors que la Winston Churchill de Paul Roger en coûte 200.
Oh, alors c'est... Non, il faut rehausser le prix du de Gaulle.
Je pense que là, on est clairement un peu dévalorisé. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est en profiter, parce que le champagne, finalement, je trouve qu'on ne sait pas assez le mettre en valeur et le boire et le servir. Alors, comme il se doit et comme il mérite de l'être.
Avec modération, toujours, mais il y a une manière.
Oui, toujours.
Évidemment. Alors, vous rangez, on en parlait tout à l'heure, vos coupes et vos flûtes, parce qu'un beau vin de champagne, ça s'exprime de la même manière qu'un vin traditionnel, qu'un vin tranquille, c'est-à-dire qu'il y a des arômes, il y a une complexité, il y a un nez, et donc vous utilisez un beau verre à vin. Prenez un verre à vin blanc et vous allez voir déjà qu'en termes d'odeur, votre champagne va se libérer d'une autre manière. Alors, quand il est dans une flûte, la flûte étant trop haute, les arômes ne sortent pas, et alors dans une coupe, je vous en parle même pas, tout s'en va et le nez ne capte rien. Donc, dans un verre à vin. Et puis surtout, le champagne, et notamment quand on a des champagnes un peu jeunes, peut aussi se carafer, comme on le ferait pour un vin blanc ou pour un vin rouge. Alors on va perdre un tout petit peu de bulles, c'est pas très grave, mais on va gagner en complexité de bouquet. Donc n'hésitez pas là aussi, juste avant de le servir, de carafer délicatement le champagne. Il faut pas y aller trop fort parce que sinon ça mousse et puis vous pouvez plus contrôler le truc. Mais en y allant très délicatement, et vous allez voir que votre champagne va libérer des arômes que vous ne lui connaissiez peut-être pas. Et puis le dernier point, et notamment avec ces deux cuvées qui sont quand même des cuvées plutôt haut de gamme et qui méritent à mon avis autre chose qu'un bol de cacahuètes à l'apéritif, ce sont des champagnes de table. Donc n'hésitez pas là aussi à les servir au cours d'un repas, et notamment avec de la viande blanche, ça marche extrêmement bien, et pourquoi pas avec certains poissons.
Poulet, poulet champagne.
Alors le poulet, le champagne, en ce moment là, les champignons, ça marche extrêmement bien. Quelle une petite poêlée de champignons, une volaille et un champagne, vous allez voir que c'est délicieux. Et même parfois, certaines viandes rouges un peu délicates, je pense aux pigeons, ça peut très bien marcher avec, avec le champagne.
Eh bien, dites donc, merci beaucoup Olivier. On peut retrouver évidemment toutes vos recommandations et vos recettes sur le site d'Europe1.fr.
Et alors que nous commémorons aujourd'hui les 50 ans de la mort du général de Gaulle, votre dernier mot du jour, Stéphane, se devait de faire partie du lexique gaulien. Vous avez choisi de nous raconter l'origine de quelle expression ?
La chienlit.
Évidemment.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Il nous a admirablement décrit le De Gaulle intime, le De Gaulle badin des urinoirs rieurs. Mais pour conclure cette spéciale De Gaulle, Stéphane Bern va maintenant nous livrer son dernier mot. Chaque jour, l'histoire d'une expression, expression gaullienne, forcément, aujourd'hui.
Oui, la chienlit. En ce jour particulier, puisque je vous le rappelle, cela fait 50 ans, jour pour jour, que le général De Gaulle nous a quittés, et avec l'émotion qui la nôtre, puisqu'avec Mathieu Noël, nous sommes, on peut le dire, des fans inconditionnels du général. Oui. Restons professionnels et expliquons. La chienlit.
La chienlit, pour être le plus poli possible, c'est le désordre.
Exactement. On se souvient du bon mot de Charles de Gaulle pendant les événements de 68. Malgré le tumulte, il part en Roumanie pour une visite officielle. À son retour, s'adressant à des journalistes, juste à la sortie du Conseil des ministres, il tonne « La réforme, oui. La chienlit, non. »
Alors, quelle est l'origine de la chienlit ?
La première fois que le terme apparaît, c'est en 1534 dans le Gargantua de Rabelais. Parmi une liste d'insultes, on trouve « chienlit », un mot semble-t-il composé de « lit » et de « chier ». C'est l'ancêtre de l'enquiquineur en quelque sorte.
Ah oui.
Autre explication, un chienlit était un personnage typique du carnaval de Paris, une fête populaire où toutes les excentricités étaient possibles, qui s'est tenue du 11e au 15e siècle dans la capitale, comme son nom l'indique.
Plus chic comme explication.
Oui. Le costume du chienlit consistait en une chemise de nuit et un postérieur barbouillé de moutarde. Très chic.
Ah oui, moi, chien,
d'ailleurs, le nom du costume était appelé le chienlit en trois mots.
Ah oui, je visualise.
C'est celui
oui.
qui faisait, on faisait pas pipi oui, au lit, on faisait autre chose.
Ça m'appelle voilà. Amber Heard et Johnny Depp. Vous vous souvenez?
Exactement. L'accoutrement est devenu au fil des ans un substantif féminin. La chienlit. Popularisé par le général, mais aussi par les manifestants de mai 68 avec leur pancarte, où De Gaulle était dessiné avec cette mention « La chienlit, c'est lui ».
Eh bien les amis, notre spécial De Gaulle et les grands orateurs de l'histoire semblent s'achever. Stéphane Bern parviendra-t-il à prendre congé de nous sans imiter le général ?
On va passer une merveilleuse soirée.
Stéphane, je vous en prie, nous étions réunis cet après-midi pour honorer la mémoire du général, pas la salir. Dites-nous plutôt lequel de nos orateurs de génie vous a le plus fasciné aujourd'hui.
Moi, j'ai une sympathie naturelle pour Mirabeau aussi, vraiment, parce que j'aime bien ceux qu'on accuse d'être traîtres et qui en réalité ont été sincères à géométrie variable.
Sincères à géométrie variable, voilà un beau qualificatif. Qu'est-ce qui nous attend demain, Stéphane ?
Demain, c'est Courage Fuyant.
Vous viendrez pas ?
Si, mais nos trois personnages ont bien tenté de fuir. Louis XVI à Varennes, Marie de Médicis qui s'échappe du château de Blois dans lequel elle est retenue par son fils, et plus récemment l'ex-roi d'Espagne Juan Carlos qui a quitté le pays sur fond de scandale pour se réfugier aux Émirats Arabes Unis.
Vous aviez raison Stéphane, courage, fuyons.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.